Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, Média.
Et on se retrouve dans un tout petit instant sur Sud Radio pour parler d'une nouvelle fiction sur TF1 ce soir. Gros événement avec Marie-Lou Berry, entre autres, qui sera notre invitée à 10h15. Et puis à 10h30, on parlera des petits commerçants, des commerçants. Certains d'entre eux voient leur magasin fermé. On y reviendra avec vous. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Avec vous sur Sud Radio, bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver, on est ensemble pendant 2 heures. Bonjour Gilles Gansman.
Bonjour Valérie, ça va bien ?
Et notre invité, oui très bien, notre invité c'est Marie-Lou Berry, elle est à l'affiche ce soir d'une nouvelle fiction sur TF1, Je te promets, c'est l'adaptation de This Is Us, série qui a cartonné aux États-Unis, un petit peu moins en France, et c'est une véritable adaptation.
Ouais, c'est plutôt bien fait.
Plutôt bien, je pense que les fans de This Is Us, et j'ai entendu la productrice le dire, n'aimeront peut-être pas, mais en tout cas allez-y parce que c'est y a un très très beau casting. Elle sera avec nous dans un instant. La question du jour, Gilles.
La question du jour, est-ce que samedi vous étiez devant votre écran, Valérie?
Vaguement.
Vaguement, il était 23h quand on a entendu ça.
Voilà qui je suis, me voilà même si mise à nu c'est fini, c'est ma gueule, c'est mon cri, me voilà tant pis.
Et oui, Edith Piaf est de retour. Non, je rigole. Oh, Valérie, arrêtez de faire la tête.
Moi, elle me donne des
boutons. Mais non, ne dites pas ça.
J'ai le droit de le dire. J'ai le droit de dire que j'aime pas. Voilà.
C'est notre représentante française, Valérie. Vous n'avez pas du tout.
Non, du tout.
Moi, je pense qu'on a des chances de gagner. Vous savez qu'à l'étranger, ils sont assez nostalgiques de ce genre de chansons. Et ben voilà, vous l'avez écouté, c'est Barbara Pravi qui a été samedi soir sur France 2 sélectionnée pour représenter la France. Est-ce que d'après vous, cette année, qu'est-ce que vous pensez de notre représentante? On vous a fait 3 propositions. Des chances de gagner 10%, on va encore perdre 13%. Je ne regarde pas 77%.
Et ben voilà.
On a bien fait de poser la question. Et c'est comme ça.
On en reparlera. Parce que cette soirée, j'ai trouvé assez surréaliste. Moi, pour le coup, j'ai trouvé que c'était des candidats prétextes pour justement Barbara Pravi qui était donnée gagnante.
C'est vrai.
Et invitée partout.
On avait parlé il y a plus d'un mois.
Et invitée partout chez Nagui, etc. Donc,
Sébastien Barthier, on avait
voilà,
parlé.
Voilà, absolument. On y reviendra. Alors, le zapping.
Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping.
Valérie, c'est l'événement Média. Comme toujours avec lui, Bernard Tapie était l'invité de 20h30 le dimanche face à Laurent Delahousse. Et il a lâché une petite bombe concernant les retards de vaccination, car il a eu téléphone le président de Moderna, qui est son ami.
J'ai parlé aux autorités françaises la première fois de mon vaccin en avril. Et je demandais du fric. Ils m'ont même pas répondu. Et quand le brevet, il existe, que les étapes dangereuses sont passées, on est en novembre. Et nous, on n'y croit toujours pas. Pourquoi à la décharge du pouvoir? Je vais vous le dire. Si au départ, monsieur le président, il dit « Banco, on fait les vaccins ».
La prise de risque.
Si jamais il y en a 3 qui meurent, il est mort. Alors qu'il vaut mieux qu'il y en ait 5 000 de plus qui meurent et qui n'ont aucun risque que le contraire.
Tout est la prise de risque, vous en parlerez, j'imagine.
Bien sûr,
avec
oui,
vos
on va y revenir. Oui,
dès
oui.
10h45. Une autre bombe, écoutez bien, Valérie, cette déclaration hier sur CNews de Anouar Kibek, président du Rassemblement des musulmans de France. Il a été assez clair et il a été très critiqué pour ça.
J'ai déjà eu l'occasion de dire que les musulmans en France ne sont pas les Ouïghours en Chine et pas les Rohingyas en Birmanie, il ne faut quand même pas exagérer. On est dans un pays laïque qui respecte la liberté de conscience, qui respecte la liberté de croire ou de ne pas croire et qui garantit aux croyants le fait de vivre pleinement leur religion dans le respect des lois et des valeurs de la
religion. Ça, c'est positif ou pas?
Les musulmans en France vivent leur islam parfois mieux que dans certains pays musulmans.
Évidemment, cette phrase des musulmans qui vivent mieux leur islam que dans certains pays musulmans a déchaîné toute une vague et tout un débat sur les réseaux sociaux. Il était l'invité de Jean-Pierre Edcabache. Hier sur BFM, pour la première fois, les époux Jacob, respectivement le grand-oncle et la grande-tante de Grégory Villemain, ont crié leur innocence, mais aussi leur calvaire.
Ce qui nous arrive, c'est terrible. C'est tout. Vous savez, quand vous étiez 4 jours à prison, je me disais tout à l'heure, j'attends toutes les nuits à court quand ils ferment la serrure. Toutes les nuits, malheureusement. Toutes les nuits. C'est monstrueux ce qu'ils nous font.
Monstrueux.
Monstrueux.
Il n'y a pas de mots.
Vous
savez, des fois.
La justice, vraiment.
Ah non, j'ai confiance dans notre justice à la France, mais là, il faut qu'ils arrêtent. C'est plus possible.
Ils ont expliqué qu'ils étaient en conflit avec la famille Villemain, mais qu'ils n'avaient rien à se reprocher. Et pour finir, Bertrand Huskla, notre chouchou de Canal+, vous savez, celui qui fait Brout.
Que vous retrouvez sur les réseaux, hein, tous les dimanches à 15h, il publie sa petite histoire
sa petite
de la semaine.
Sa petite vidéo, sa petite parodie de Brout. Et là, il s'est attaqué aux journaux en ligne. Vous savez, qui cherche juste à faire du buzz et des clics au détriment du contenu. C'est vraiment une réussite. Écoutez.
Cet article, on en est à 32 000 partages.
Super.
Et en nombre de lectures, on en est à...
On s'en branle.
Ok.
Le modèle est simple, hein. Plus il y a de clics, plus il y a de revenus. Lui là-bas, c'est notre data journaliste. Avec son algo et en fonction des tendances du moment, il nous crée des titres sensationnalistes, mais légalement inattaquables. Alors, on a quoi aujourd'hui?
Après avoir reçu une dose de vaccin de Pfizer, il est victime d'inceste. Bingo.
Ah, bingo,
toute ressemblance,
ça risque de cliquer.
Toute ressemblance avec la réalité, évidemment, est tout à fait fortuite. Allez, on va parler
vous
de cette...
Vous voulez pas que je vous remette un coup de Barbara Pravi?
Non, pas du tout. Surtout pas. Allez, c'est Marie-Lou Berry qui est notre invitée aujourd'hui pour parler de cette fiction événement sur TF1 ce soir. Marie-Lou Berry.
Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour.
L'invité du jour, c'est l'actrice Marie-Lou Berry. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio.
Bonjour. Et Valérie, bon anniversaire Marie-Lou, parce que c'est le 1er février, c'est votre anniversaire.
Ah, bravo,
et pour votre anniversaire, c'est le lancement de la série. Donc au nom de Sud Radio, je vous souhaite un très très bon anniversaire Marie-Lou.
Mais ce qui est encore plus fou, c'est que non seulement... c'est mon anniversaire, mais effectivement, ce soir, dans le premier épisode, je fête mon
absolument.
Anniversaire.
Ouais, c'est vrai que c'est assez...
Il y a beaucoup, beaucoup de choses et de signes comme ça dans cette série qui sont assez incroyables.
Ouais, bah vous allez nous raconter. Donc, Je te promets, c'est l'adaptation française de la série This Is Us. On aura la productrice Aline Panel tout à l'heure en ligne avec nous. Ça commence ce soir sur TF1 à 21h05, 12 fois 52 minutes. Série française, donc adaptée par Aline Panel et qui tout de suite avait flashé sur cette série. Alors racontez-nous, est-ce que vous connaissiez la série? Vous l'aviez vue? Enfin, j'imagine qu'on vous pose un petit peu toujours les mêmes questions, mais est-ce que vous l'aviez vue et qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'accepter ce rôle, qui est un très beau rôle, hein, il faut le dire?
Alors oui, c'est un super rôle. Moi, je connaissais pas la série, donc j'ai vraiment lu sans aucune référence. Et puis surtout aussi, c'est la première fois que je lisais une série, ce qui est pas forcément commun comme type de lecture. Et ce qui m'a le plus surpris, je dirais, c'est que dès le premier épisode, on est non seulement attaché au personnage. Mais on a très envie de connaître la suite, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et j'ai trouvé ça vraiment une prouesse, en fait, parce qu'il n'y a pas de suspense incroyable. Il ne se passe pas une action haletante qui vous emmène. C'est des gens un peu comme tout le monde qui font des choses qui arrivent un peu à tout le monde. Et pourtant, je trouve que dès le premier épisode, alors qu'en plus, c'est de nombreux personnages, parce que même si on les suit les mêmes sur deux époques, ça reste des personnages presque différents. Donc on suit six personnages comme ça et on s'y attache tout de suite. Et c'est ça que moi qui m'a pris, en fait, c'est que je me suis tout de suite attachée à cette fratrie, à ses parents. Il y a aussi cette Madeleine un peu de nostalgie, de retourner dans ces années qu'on a aimées, des années 80, 90, avec ses musiques, avec tout ce travail qui a été fait dans l'adaptation, qui est super bien foutu et qui est vraiment, je trouve, qui représente bien notre culture. C'est pas un copier-coller, même si effectivement, ça reste une adaptation. Donc les arches des personnages sont les mêmes que les personnages américains. Mais c'est des vrais personnages qui sont implantés dans un paysage et une culture française. Oui. Et ça, c'était très important parce que la série aux États-Unis, elle s'appelle This Is Us, et This Is Us, ça veut aussi dire This Is USA.
Oui.
Et c'est un vrai tableau de la culture américaine. Et c'est un non-sens total que de l'adapter en copier-coller comme ça.
Oui, c'est ça, parce que les références qui sont évoquées, pour le coup, parce que la série colle vraiment à la série américaine, les personnages même se ressemblent. Hein, le père de votre demi-frère, il est votre demi-frère, est vraiment très, très proche. Hugo Becker, Carter a à peu près la même tête que le comédien qui joue le père dans This Is Us. Mais c'est vrai que tout ce qui est société, les années Mitterrand, les sitcoms, Goldorak, tous ces éléments sont bien français. Et c'est une sorte de fresque d'une époque et d'une société, comme vous le disiez. Il ne se passe pas des choses extraordinaires. C'est la vie d'une famille.
Oui. Oui, tout à fait.
Et de vous, ça fait écho à des choses que vous avez vécues. Vous êtes retrouvée dans ce rôle déjà et dans cette série?
Dans cette série, oui, parce que pour plein de raisons que je ne vais pas vous énumérer là, parce que ça serait un peu dommage.
Non, on va pas
découvrir la série ce soir. Mais c'est une série qui me touche énormément pour plein de raisons différentes. Et comme je vous le disais, j'ai eu vraiment... Enfin, je pense que c'était pas possible de pas la faire, parce qu'il y a eu tellement de choses, comme par exemple le fait que ça soit diffusé le soir de mon anniversaire et que mon personnage fête ses 38 ans soir-là aussi. Enfin, c'est des signes qui sont forts. Ou par exemple, j'ai la petite fille qui joue mon personnage plus jeune, qui s'appelle Maddy Dreyfus, que j'embrasse d'ailleurs, qui est super. Ouais. Avec qui évidemment j'ai pas joué malheureusement puisqu'elle me joue moi petite, donc on se croise pas dans la série, est venue me voir, on s'est rencontrés avant le début du tournage et on se rencontre, elle me dit je suis super contente, faut que je te dise j'habite là où t'habitais. Et je dis c'est marrant, c'est drôle, je dis t'habites dans quel appartement, à quel endroit de la rue, elle me donne mon adresse là où j'habitais quand j'étais petite, elle me dit mais dans ta maison.
D'accord.
Et en fait cette petite fille qui me joue moi petite vit là où je vivais quand j'avais son âge et dort dans la chambre où je dormais quand j'avais son âge.
C'est incroyable.
Et elle me joue moi petite.
Ouais. Donc il y a beaucoup de similitudes, de choses communes entre votre vie. Entre votre vie, Maud, c'est une jeune femme qui a des problèmes de poids, qui a un problème par rapport à l'alimentation. Là aussi, elle vous ressemble?
Bah oui, parce que de toutes les manières, on a le même problème de poids.
Oui, mais
on l'appréhende, on l'appréhende assez différemment, parce que Maud, elle a quelque chose. Maud, par rapport à ses deux frères, elle est à la traîne. Ses deux autres frères, même s'ils ont leurs enjeux, leurs problèmes, et évidemment, ils vont aussi se manger des réveils. Ils sont quand même bien installés, mariés, avec une maison, avec du succès, de la réussite. Enfin voilà, Maud, elle est à la traîne. Elle a pas construit sa vie. Elle s'est jetée corps et âme dans la carrière de son frère.
Oui, elle est dans l'ombre de son frère.
Mais en plus, je pense qu'elle fait très très bien. Je pense qu'elle est très douée pour être agent de son frère. Et ça lui a permis de mettre un mouchoir sur sa vie et de pouvoir s'oublier tranquillement sans que personne vienne l'emmerder là-dessus. Et à ses 38 ans, il y a son frère qui va lui faire ce cadeau-là de la virer et de lui dire c'est maintenant ou jamais. Quoi. Là, tu as 38 ans.
Parce qu'elle tombe amoureuse et c'est très compliqué pour elle de tomber amoureux. On va découvrir ce soir, on va pas spoiler. Mais Chrissy Metz, qui jouait le rôle de Kate dans la version américaine, disait que c'était un plaisir pour une personne, parce qu'elle est très ronde, Chrissy Metz, qu'on lui donne enfin un rôle normal, c'est-à-dire pas un rôle de personne grosse, qui est souvent des rôles de comique d'ailleurs. Elle disait « Enfin, j'ai un rôle normal ». Est-ce que vous avez eu cette sensation d'avoir enfin un rôle normal où vous pouvez jouer une palette vraiment de jeux vraiment différentes?
Moi, j'ai peut-être eu plus de...
Vous avez eu de la chance, vous avez eu des rôles quand même...
En plus de ça, a commencé sa carrière de comédienne très tard, parce qu'elle était agent, ils sont venus la chercher. Elle, à la base, elle n'était pas comédienne. Donc, ils sont venus la chercher parce que quand elle s'occupait de faire passer les essais à un de ses acteurs, et ils l'ont vu, ils lui ont dit « mais vous êtes le personnage ». Et c'est comme ça qu'elle a démarré sa carrière avec This Is Us. Donc, c'est assez différent. Même si, à mon avis, elle devait être comédienne, elle a dû jouer la comédie ou des choses comme ça. Mais moi, en l'occurrence, j'ai eu la chance de commencer avec Agnès Jaoui et de regretter Jean-Pierre Bacri.
Ouais.
Et en fait, j'ai tout de suite pu dire « je peux jouer des rôles normaux, en fait ». Voilà, et c'était ça aussi la nouveauté dans le cinéma, c'est qu'il y avait un personnage féminin qui avait un rôle principal qui n'était pas normé comme la société le demande aujourd'hui. Et qui vivait des choses, des histoires d'amour. Je le faisais avec mon corps, donc oui, ça reste un personnage gros, en fait. Mais ça n'est pas un problème, et ça ne l'empêche pas de vivre des choses comme tout le monde.
D'accord, vous n'éteignez pas la lumière quand vous faites l'amour?
Non. Non, parce qu'en fait, Maud et moi aussi, on est assez différentes, parce que Maud, c'est quelqu'un qui a une forme d'immaturité un peu d'enfant vexé, quoi, un peu d'enfant qui est resté dans son coin et qui boude encore, qui n'arrive pas à dépasser ce truc et qui surtout n'arrive pas à dépasser l'injonction de la société qui lui demande de rentrer dans un moule. Mmh. Et elle ne peut pas dire un fuck off. Voilà, elle peut pas dire moi je suis comme je suis et je fais ce que je veux. Mmh. Et elle, son ambition, c'est de répondre à cette injonction-là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle va pas être capable de tomber amoureuse de ce mec. Parce que ce mec qui lui dit je t'aime, t'es belle, et moi aussi je suis gros et ça me dérange pas plus que ça, c'est un miroir qui est beaucoup trop violent pour elle. Elle ne s'aime pas, et donc à partir de ce moment-là, elle peut pas accepter d'être avec quelqu'un qui l'aime.
Qu'est-ce que vous regardez, vous? Vous regardez les séries sur les plateformes?
Ah bah écoutez, je vous cache pas que depuis que j'ai un enfant, j'en regarde beaucoup moins. Parce que j'en suis à la deuxième saison de mon fils, et du coup, c'est assez étonnant.
Pas tellement.
Je regarde des séries courtes. Voilà, j'ai jamais vu un épisode de Walking Dead. J'ai jamais vu un épisode de Game of Thrones. J'ai jamais vu un épisode de parce que c'est trop long. Parce que l'idée même de me dire que je me lance dans un projet où il y a 287 heures de films à regarder m'angoisse. c'est trop long. Quoi.
Donc
trop
vous regardez long, quoi vous regardez plutôt des choses, des séries courtes alors.
Ouais, j'ai regardé Tchernobyl que j'ai trouvé génial. J'ai regardé le Queen Gambit qui est vachement bien aussi. Regardé Arsène Lupin que j'ai trouvé super avec Omar vachement bien dedans.
Et bon, moi j'ai regardé Munch. Est-ce que dans la prochaine saison de Munch, vous y serez?
Alors non.
C'était fini.
Vraiment une invitation pour une saison.
C'est dommage.
Qui est bouclée et voilà. Et c'est vrai que moi, comme je m'engage aussi sur. Sur Je te promets, je me vois pas m'engager d'engager un personnage comme ça sur plusieurs séries, en plus sur la même chaîne, je trouverais ça un petit peu, je sais pas, un peu déstabilisant en fait. J'ai envie de me concentrer.
Ça veut dire que vous êtes prêt à partir pour des années.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Il va y avoir une saison 2. Enfin, ça dépend, j'imagine, de l'audience, comme toujours à la télévision. Mais vous pourriez effectivement, si ça fonctionne bien, vous voyez continuer dans cette série.
Bah oui, bien sûr. Moi, j'ai un engagement sur 3 ans avec cette série.
Ah, d'accord.
Et évidemment, c'est en fonction
des audiences,
de l'attention et de l'audience que vont porter les téléspectateurs et l'intérêt qu'ils vont donner à la série. C'est pour ça qu'on attend ce soir avec impatience.
Question qu'on a dû vous poser. Vous avez envie de la rencontrer, Chrissy Metz, d'aller sur le tournage américain ou pas du tout?
Oh bah moi, de toute façon, je suis toujours très excitée à l'idée d'aller découvrir un autre tournage, encore plus aux États-Unis, où ils ont une technique de travail qui est différente. Mmh. Et ça me ferait bien marrer. J'aimerais bien aller faire un tour.
Mais vous l'avez vu, la série, au final, ou pas, anglaise, américaine?
Oui, j'ai regardé les premiers épisodes de la saison 1. Mmh. J'ai trouvé ça... pareil, quoi, on rentre dedans très vite, on s'accroche tout de suite au personnage, c'est attachant, et les acteurs sont ultra attachants tout de suite. Mais moi, ce qui m'a le plus frappé, à vrai dire, c'est le travail qu'il y a eu des auteurs pour la version française.
Oui, c'est un travail incroyable.
Ils ont pris des risques qui peuvent paraître comme ça sur le papier pas très important, mais en fait quand on est tout seul devant sa page blanche, je pense que c'est plus difficile, comme par exemple la naissance des triplés. Ils naissent tous le soir du Super Bowl aux États-Unis. Et le Super Bowl aux États-Unis, c'est un truc énorme. C'est des millions et des millions de dollars de pub, le programme de télé qui est, tout le monde est devant. Enfin, c'est vraiment autre chose, quoi. Ils auraient pu tout simplement traduire ça par la naissance des triplés un jour de la Coupe du Monde, par exemple.
Ouais.
Et c'est vrai que la Coupe du Monde, c'est populaire, mais ça n'a pas cette
impact.
Le Super Bowl qui est presque aussi politique aux États-Unis, qui a un vrai truc qui est 100 fois plus grand, quoi. Et l'idée de se dire on va se détacher complètement de ce qui s'est passé dans la version US pour se dire ils sont nés le jour de l'élection de Mitterrand. Ouais. Et en faisant ce virage à 180 degrés, malgré tout, ils arrivent justement à aller choper l'essence même de l'intention qui était la naissance le jour du Super Bowl. Ouais. Et c'est ça que je trouve vachement bien fait, moi, dans la série française. Ouais. C'est ce travail-là qui était indispensable de ces jouissances-là, de ces petits plaisirs-là.
Bon, le confinement n'a toujours pas été annoncé, mais est-ce que vous avez une idée de ce que vous ferez si on est confiné?
On va faire comme on fait depuis un an, c'est ça qui fait que les gens en peuvent plus, hein. C'est qu'à un moment donné, tout le monde, je pense que tout le monde est à peu près sérieux. Alors oui, il y a des gens qui sont plus ou moins sérieux, mais je pense que dans l'ensemble, il faut arrêter de dire que les Français sont indisciplinés. C'est pas vrai. Les Français ont appliqué le couvre-feu, le confinement depuis un an qu'on leur pète les noix sur des règles de privation qui sont lourdes et qui deviennent vraiment pour aujourd'hui qui commence à devenir tendu. Je pense aux étudiants, je pense aux jeunes, je pense à tous les gens,
tous les intermittents, toutes les événementiels,
les gens de la nuit, les gens dans la restauration. Enfin voilà, je pense que là aujourd'hui ça devient très très compliqué de contenir en fait, quelle que soit la bonne solution, hein. Je dis pas que c'est bien ou mal, je dis juste que ça va devenir compliqué. Moralement, mais moi voilà, je vais faire comme tout le monde, je vais rester chez moi avec mon chat et mon enfant et mon mec et puis on va faire à manger.
Ben voilà, vous allez vous lancer dans des recettes. Voilà, du pain, vous allez faire votre pain et puis de la cuisine. On peut quand même, il faut rappeler Camille Lou, donc, qui joue le rôle de votre mère, Hugo Becker qui est aussi formidable, Guillaume Labbé, Narcisse Mam qui joue votre frère, et puis il y a bien Natacha Lindinger qu'on va retrouver, Marie-Julie Beau, puis il y a un très beau casting, Patrick Chenet.
Marc Rizzo qui joue mon chéri.
En tout cas, vous êtes formidable dans cette série, je le dis très très sincèrement, vous dégagez quelque chose d'extrêmement puissant, une présence, une intensité dramatique. Franchement, pour moi, vous êtes le personnage le plus réussi, encore que tous sont très bons, mais votre personnage est vraiment très important dans la série. Merci Marie-Lou Berry d'avoir été avec nous. Et ce soir, donc, 21h05, je te promets, série événement de TF1, l'adaptation de This Is Us, 12 fois 52 minutes. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, et Pete nous dit, Marie-Lou Berry est une vraie comédienne, elle peut tout jouer, elle crève l'écran comme sa mère, j'adore, et effectivement, ce soir, vous allez voir, elle crève l'écran.
Moi, je parie 6 millions, Valérie.
Bah écoutez, on verra, je ne parie rien.
Ah, vous ne voulez pas parier?
Non, parce que moi, j'ai beaucoup aimé la série américaine, donc j'ai du mal à être objective.
Oui, mais vous c'est pouvez
vraiment...
penser que ça
non, non, c'est marcher. Vraiment très bien, c'est vraiment très très bien joué, mais je pense qu'effectivement, c'est pour des gens qui ne l'ont peut-être pas vu, qui n'ont pas vu l'original.
Vous êtes d'humeur d'un lundi.
Non, c'est... Mais franchement, regardez-le, parce que c'est très, très réussi, une adaptation très réussie.
Alors, on verra si ça fait 6
la
millions.
Question...
La question du jour, tiens, mettez-moi un peu de Barbara Pravi.
Non.
C'est... Vous me faites rire, on va dire. Que pensez-vous de la représenter? Il y a écrit « Que pendez-vous » d'ailleurs, je viens de m'en apercevoir. Non, on ne va pas la pendre quand même. Non. Que pensez-vous de la représentante française cette année? Et donc Barbara Pravi, qui a été choisie samedi soir avec sa chanson « Voilà ». Des chances de gagner 10%, on va encore perdre 17%, je ne regarde pas 73%. Quelle réussite cette question, j'avoue.
Oui, c'était effectivement un choix très, très gonflé.
On fera une question foot demain, si vous voulez.
On fera une question foot, non, on demandera effectivement si
te promets vous a séduit.
Voilà, absolument. Donc voilà, est-ce que la soirée de l'Eurovision a fonctionné?
La soirée de l'Eurovision, c'était samedi
soir. Ouais.
Elle a plutôt bien fonctionné. Elle a été battue par Ninja Warrior, qui est arrivé en premier.
Oui, par la fiction de France 3.
Et par la fiction
France 3, qui est arrivée en premier.
Ensuite, c'était la finale de Ninja Warrior. Et puis ensuite, c'était l'Eurovision.
Il y avait quand même 2 millions de personnes
Ouais, un petit peu plus. Ça a été 3 millions au moment de l'annonce du gagnant.
Eh bien, on verra ça. On va suivre ça avec énormément d'intérêt et d'attention. On se retrouve dans un petit instant. On va parler de l'annonce qui a été faite vendredi par Jean Castex. Parmi les nouvelles contraintes pour tenter de freiner l'épidémie de coronavirus, on va fermer les grands centres commerciaux et les surfaces et les grandes surfaces de bricolage et autres magasins, et on en parlera avec Jacques Cressel. On va parler un peu de tous ces commerces qui sont également à la peine. À tout de suite.
Sud Radio,
parlons vrai,
parlons vrai.
Sud Radio, parlons vrai.
Sud Radio, parlons vrai,
parlons vrai. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
On est ensemble pour le 10h midi. On va revenir sur les annonces qui ont été faites par le Premier ministre vendredi. On en débattra à 11h moins le quart. Et je voulais revenir sur l'une d'entre elles, parmi les nouvelles contraintes imposées donc pour tenter de lutter contre l'épidémie de coronavirus. Le Premier ministre a annoncé la fermeture des grands centres commerciaux, des espaces de plus de 20 000 mètres carrés. C'est entré en vigueur hier soir. On est en ligne avec Jacques Cressel. On est avec vous, même en Zoom, pour ceux qui nous suivent sur Facebook et YouTube. Bonjour Jacques Cressel.
Bonjour.
Vous êtes délégué général de la Fédération Commerce et Distribution. On parle beaucoup des restaurants, on parle beaucoup des jeunes, on parle un petit peu moins, me semble-t-il, des commerces. Déjà, peut-être sur cette annonce qui a été faite, quelle est votre position ?
Écoutez, c'est une annonce naturellement très difficile pour les 25 000 commerces qui sont amenés à fermer, avec des dizaines de milliers de salariés qui se sont retrouvés au chômage partiel hier, tous les grands magasins, beaucoup de grands magasins de meubles, par exemple. Donc, c'est très clairement une mesure très difficile pour tous ces magasins. En même temps, ça permet de préserver l'ouverture des autres magasins. Et donc, il y a 300 000 magasins en France, il y en a 25 000 qui sont naturellement parmi les plus importants qui ferment, mais tous les petits commerces, les coiffeurs de centre-ville, tout ce qui fait notre vie quotidienne va pouvoir rester ouvert, les rayons non essentiels des grandes surfaces restent ouverts, tous les magasins alimentaires restent ouverts. Donc, naturellement, on a un avis partagé, tristesse forte pour certains, et ça a permis quand même une solution qui est meilleure que ce qu'on craignait, qui était la fermeture pure et simple de tous les magasins, comme c'était encore annoncé jusqu'à vendredi soir.
Oui, vous avez le sentiment, alors encore une fois, c'est toujours difficile de se prononcer, mais que c'est une mesure qui peut être efficace. Est-ce que les grandes surfaces, les grandes enseignes sont facteurs de contamination? On a toujours cette hésitation quand même d'un deux poids deux mesures quand on voit le métro, quand on voit certains endroits, et puis les grandes surfaces où globalement, ou les grands magasins où il y a des jauges, où les gens sont masqués et tiennent à peu près les distances.
Écoutez, toutes les études montrent qu'effectivement les commerces ne sont pas des lieux de contamination, et d'ailleurs les lieux de contamination les plus importants, c'est la sphère privée, et puis c'est... c'était les restaurants, les salles de sport et autres. Les pouvoirs publics nous disent, à partir des éléments qu'ils ont et que nous ne connaissons pas, que le brassage de la population dans des allées couvertes de centres commerciaux, c'est quelque chose qui est un vrai problème, que quand les gens attendent, les clients attendent dehors, ça ne pose pas de problème, mais quand ils attendent à l'intérieur de pouvoir rentrer dans des boutiques, là, il y a des phénomènes d'attroupement qui posent des vraies difficultés. Ils nous ont d'ailleurs dit la même chose à l'intérieur des magasins. On a renforcé, comme ça a été annoncé également, les contraintes en matière de jauge, puisque désormais, il y aura un client pour 10 mètres carrés au lieu d'un client pour 8 mètres carrés. Mais dans le même temps, nous avons pris des engagements pour faire en sorte que dans les endroits où il y a le plus de monde à l'intérieur des magasins, c'est-à-dire les caisses, ou par exemple le rayon fruits et légumes, on change là aussi les choses de façon à éviter ces phénomènes où les gens s'agglutinent. Et donc, d'abord, on va renforcer le nombre de caisses et puis on va mettre des personnels, par exemple dans les rayons fruits et légumes, pour rappeler aux clients qu'il faut attendre chacun son tour et que la personne devant, elle se sert et que la suivante arrive et que ce n'est pas la peine de faire les choses en même temps. Donc, pour répondre à votre question, on voit bien que ça n'est pas totalement démontré, mais qu'en même temps, le gouvernement a souhaité, à travers ces fermetures, contribuer à faire en sorte qu'on évite un confinement généralisé. Et donc, l'important, c'est que ce soit bien appliqué aujourd'hui. Ouais.
Vous n'avez pas le sentiment d'avoir, je vais être un petit peu trivial, pris pour les autres, c'est-à-dire qu'il fallait bien annoncer quelque chose, comme il n'y a pas de confinement, et que c'est un petit peu vous, qui prenez pour tout le monde ?
Malheureusement, effectivement, ça fait partie du sentiment d'un certain nombre de commerçants, en sachant que c'est quand même mieux que,
que la fermeture totale.
La fermeture totale. On voit bien que le sujet, c'est ce qui se passe quand les gens n'ont pas de masque. Mmh. Or, dans nos magasins, on a des masques.
Bien sûr.
Mais là où on n'a pas de masque, c'est très difficile à contrôler. Y compris dans la sphère privée.
Oui. Est-ce que ça veut dire, je reviens sur les commerces, les biens non essentiels, ça veut dire qu'on va retrouver, on va retomber dans des décisions totalement lunaires, comme on a pu voir, c'est-à-dire les rayons chocolat fermés, certains rayons complètement fermés car jugés non essentiels, ou les vêtements, par exemple, dans Monoprix seront fermés, pour citer cette enseigne.
Alors ça, c'est le grand avantage de la décision qui a été prise, c'est qu'on a complètement abandonné cette distinction complètement absurde entre produits essentiels et produits non essentiels. D'accord. Ça, c'est complètement terminé. La seule distinction, c'est la taille des centres commerciaux. Donc, tous les produits sont disponibles dans tous les magasins alimentaires. Tous les commerces situés hors des grands centres commerciaux sont ouverts et vendent de tout. Donc, d'accord, là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est vrai que c'était, et Bruno Le Maire le dit bien, c'était une erreur du deuxième confinement qui avait été d'introduire cette notion qui était complètement absurde, dire qu'on n'avait pas le droit d'acheter de collants ou de chaussettes en hiver parce que ce n'était pas un produit essentiel, dire qu'un manteau ou un pyjama pour un gamin de 2 ans, c'était bon, mais pas à 4 ans. C'était totalement lunaire, comme vous le disiez. Mmh. Ça, heureusement, c'est fini. On est sur des choses tout à fait claires et tous les produits sont en vente.
Et c'est vous qui avez réussi à faire changer cela ou pas ? Parce que ce sont les...
Écoutez, on a participé assez largement. Nous, c'est vraiment un sujet sur lequel on a insisté dès le départ avec Bruno Le Maire. Il en était totalement conscient et il a beaucoup aidé à ce qu'on aille vers une solution de ce type-là, qui est effectivement une solution beaucoup plus intelligente. On demandait qu'il y ait, s'il y avait un confinement intelligent. Là, on n'est pas en confinement, mais on a des fermetures plus intelligentes, même si, aussi, encore une fois, il y a des dizaines de milliers de salariés et des dizaines de milliers de commerces qui, malheureusement, se retrouvent dans une situation très difficile. On a travaillé tout le week-end avec le gouvernement pour des compensations. Le gouvernement a annoncé notamment la prise en charge des loyers. Mmh. Donc, tout ça, c'est quand même quelque chose de positif. Il faut éviter, naturellement, les drames derrière pour toute une série de commerces.
Oui. Quel a été le bilan justement du premier confinement quand il y a eu la fermeture totale ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des petits commerçants qui sont en faillite ou dans l'obligation de cesser leur activité ?
Alors, comme vous le savez, il y a peu de faillites globalement, comme dans toute l'économie, parce qu'il y a eu beaucoup de prêts, les fameux prêts PGE qui ont été donnés. Donc, en réalité, on a maintenu l'activité, l'existence de beaucoup d'entreprises. Le sujet, c'est ce qui va se passer quand on va sortir de cette crise. On voit bien qu'il y a beaucoup de commerçants qui vont être extrêmement fragilisés, comme de restaurateurs, par exemple. Et c'est là où on va voir, ça va être le moment de vérité. Il faut bien voir que le commerce, il a eu les gilets jaunes il y a 2 ans, les manifestations contre les retraites l'année dernière. Et là, il en est à des mois et des mois de fermeture pour beaucoup de commerces. En même temps, des Français qui ne consomment pas. Il faut bien voir que l'épargne des Français aura augmenté de 200 milliards. Donc, 200 milliards de plus d'épargne, c'est 200 milliards de consommation en moins. Et donc, ça, c'est vraiment la difficulté. Alors, il y a une partie qui est liée à la restauration, mais il faut bien voir que derrière les restaurateurs, il y a des commerçants qui livrent les restaurateurs. Et donc, on a tout un… Et une industrie derrière… On a beaucoup insisté pour qu'il n'y ait pas de confinement complet parce qu'il faut bien voir que c'est une chaîne. Les commerces ne sont pas ouverts, ce sont les industriels qui ne produisent pas non plus. Et prenez les voitures, par exemple, parce qu'on oublie toujours qu'il y a des concessions automobiles qui font partie des commerces. Quand les concessions sont fermées, eh bien, les usines, par derrière, ne peuvent pas fonctionner.
Ouais. Est-ce qu'il y a un secteur en particulier qui a été plus touché que les autres dans le commerce ?
Il y a un secteur qui est beaucoup plus touché, qui est le secteur de l'habillement, du commerce de l'habillement, pour une raison simple, c'est que quand vous n'avez pas la possibilité d'aller au restaurant, au théâtre, au cinéma, d'aller dîner chez des amis, bah, vous vous habillez moins, vous achetez moins de vêtements, télétravail idem. Et donc, on voit bien, les soldes aujourd'hui sont une catastrophe par rapport… D'ailleurs, c'est dommage qu'elles aient été repoussées, nous, on était contre cette idée. Parce qu'il aurait mieux valu les faire pendant que c'était ouvert. Et puis, donc, c'est un secteur qui était déjà en difficulté avant la crise et qui, là, est en très grave difficulté.
Oui, parce qu'il faut rappeler que ces fermetures interviennent en période de solde, c'est-à-dire que les grands magasins, exactement, Printemps, Galeries Lafayette et autres BHV, étaient en pleine période de solde. Donc, c'est une catastrophe aussi pour eux. Mais c'est vrai qu'on n'a pas, au-delà de ça, on n'a pas envie d'acheter. Enfin, je vois autour de moi, les gens n'ont pas envie de s'habiller. Il n'y a pas une envie de consommer, en tout cas, non ? Est-ce que vous le remarquez aussi au-delà de l'habillement ?
Ah, c'est tout à fait clair. On voit bien, on parle beaucoup aussi du moral des Français. Ouais, hein, ouais. Quand même pas très élevé. On est tous à ne rêver que d'une seule chose, c'est retrouver une vie normale. Mm. Et quand quand vous êtes chez vous, que vous travaillez, on voit bien que on a moins envie de se faire plaisir. Et ça, c'est une vraie difficulté. Mm. Et donc, il y a plein de secteurs de l'activité commerciale qui aujourd'hui souffrent. On voit bien que tout ce qui est autour de l'équipement de la personne, y compris la parfumerie, souffre. L'équipement de la maison, ça marche mieux parce que quand vous êtes chez vous, vous avez envie de faire des travaux, d'améliorer les choses. Donc, le bricolage marche plutôt pas mal, le sport, tous ces éléments-là. Mais par contre, dès que ça touche à la personne, là, c'est le moral, c'est l'impossibilité de sortir et ça joue beaucoup. Et d'ailleurs, on a travaillé ce week-end sur des mesures spécifiques pour ces commerces. Par exemple, faire en sorte que les stocks d'invendus puissent faire l'objet d'une indemnisation spécifique, parce que là, on a des vrais problèmes. Il y a pas
qu'est-ce que ça va devenir Qu'est-ce que ça va devenir, tous ces invendus
les invendus, le gouvernement, donc Bruno Le Maire, a dit qu'il allait travailler sur la prise en charge des stocks d'invendus au titre de l'indemnisation des charges fixes qui existe depuis quelque temps. Et donc là aussi, on va travailler pour qu'il y ait des pertes minimales.
Ouais. Les grands gagnants, c'est Amazon, c'est les GAFA. On a un auditeur qui nous dit ça, un autre qui nous dit Amazon, grand gagnant par rapport au petit commerce.
Alors là, les petits commerces sont quand même très largement ouverts, même s'il y a des petits commerces dans les centres commerciaux, on voit bien qu'ils restent ouverts et donc c'est quand même plus favorable. Mais naturellement, le e-commerce est gagnant. En même temps, heureusement, pour beaucoup de magasins, qu'ils peuvent avoir une activité de e-commerce en même temps. Et il faut bien voir que le sujet d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte d'investir, que tous les commerces puissent investir de manière massive. Et ça, il faut que l'État les aide à ça pour avoir une activité e-commerce qui permette justement de faire en sorte de contrebalancer cette baisse des achats dans les magasins.
Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Jacques Cressel. C'était très intéressant. Beaucoup d'auditeurs qui vous ont écouté ce matin sur Sud Radio. Et puis, on refera peut-être un point avec vous dans quelques temps. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.